Quentin et Anaïs, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est une grande joie de pouvoir célébrer ce mariage et recueillir le consentement des fiancés pour pouvoir aussi, à travers la parole de Dieu, témoigner de la beauté et de la grandeur du mariage chrétien. Lorsque nous avons préparé ensemble cette célébration, je vous ai dit, choisissez des textes de la parole de Dieu qui puissent être une lumière pour votre vie. Et peut-être ceux qui ont déjà reçu ce sacrement du mariage peuvent faire mémoire des textes qu'ils ont choisis, même si ça fait plusieurs années, voire beaucoup d'années, de refaire mémoire parce que ces textes sont vivants, accompagnent d'une manière ou d'une autre le couple dans son chemin ici-bas. Le premier texte est très beau, le livre du Cantique des Cantiques, livre poétique s'il en est, livre qui dit aussi l'amour d'un homme et d'une femme, mais s'il est dans la Bible, c'est qu'il dit l'amour d'Israël pour son peuple. Et puis, à l'intérieur de ce livre poétique, de cette beauté, il y a plusieurs trésors qu'il nous est donné de saisir et que je vous confie aussi Anaïs et Quentin. Je découvre mon visage. C'est ce que dit l'Écriture, montre-moi ton visage. C'est très beau ça, de dire qu'au fond, à travers la vie matrimoniale, on découvre le visage de l'autre et on découvre son propre visage. Quelque part, la vie matrimoniale ne fait pas l'économie d'un travail sur nous-mêmes et il nous faut rompre avec des images de l'amour qui sont fausses, comme un amour qui serait romantique, où tout serait tracé d'avance, où le prince charmant serait là, où on est fait l'un pour l'autre, où tout se passe de façon extraordinaire, où l'émotion est à son comble. Lorsque l'on commence la vie commune, et comme religieux, je vis aussi une vie commune avec des frères, bien je vous prie de croire qu'on découvre son propre visage. On découvre qui l'on est et qui est l'autre. Et c'est ça qui est très beau. C'est que le mariage, au fond, est l'invitation à un cheminement intérieur, à un travail sur soi-même. Rompons avec les fausses idées qui disent que tout est spontané, que tout est dans l'émotion. Non, nous découvrons patiemment que nous sommes amoureux l'un de l'autre, que vous êtes amoureux l'un de l'autre par la grâce qui vous est donnée lors du mariage et de ce sacrement. Vous découvrez aussi votre propre pauvreté, vos propres limites dans l'amour, vos propres peurs, vos angoisses, vos blocages, tout ça vous le découvrez aussi. Combien j'ai appris, par exemple, dans la vie religieuse, eh bien, combien j'avais aussi à me convertir, combien j'avais à changer dans des attitudes qui me paraissaient bonnes, c'est ce que j'avais vu de tout temps. Mais non, d'autres que je n'ai pas choisis, et c'est la différence avec la vie matrimoniale, eh bien, m'ont montré que j'avais aussi à changer. Si le Seigneur vous prend tel que vous êtes, mais ce n'est pas pour vous laisser tel que vous êtes. C'est au contraire pour vous transformer et découvrir dans le visage de l'autre son propre visage, ce que nous sommes réellement. L'autre est comme un miroir qui renvoie à la fois splendeur mais aussi pauvreté dans notre vie humaine. Et c'est très beau de dire ça, de dire au fond que dans le mariage, vous touchez aussi du doigt vos propres pauvretés, vos propres limites dans l'amour, et vous les avez déjà touchées. J'ai vu dans l'accompagnement de ces mois, parce que depuis plusieurs mois nous nous rencontrons pour vraiment approfondir votre vocation matrimoniale, et vous avez pris au sérieux cette préparation, j'en suis témoin, eh bien vous avez aussi découvert vos propres limites. Mais c'est ça la grandeur du mariage chrétien. Les limites ne sont pas un obstacle, ils sont au contraire une chance. Une chance pour découvrir dans l'autre une manière de grandir dans l'amour et d'éclairer encore plus de la lumière que nous avons reçue du baptême. Vous voyez, c'est donc dans l'espérance, même si c'est vrai, le message du Christ est exigeant et demande beaucoup, même si c'est vrai, on se sent tout petit, mais en même temps, dans cette petitesse, eh bien, il y a une grandeur qui est semée et une beauté qui est présente. C'est le mystère chrétien. Alors oui, le mariage chrétien, c'est un mariage qui, justement, redit une espérance dans l'humanité. Vous voyez, c'est différent, par exemple, des autres religions. Chaque religion est respectable et à l'occasion du mariage, chaque religion fait une célébration tout à fait sympathique. Mais la grande différence avec le mariage chrétien, c'est que c'est un sacrement. Les autres religions bénissent. On demande de bénir le couple parce que c'est associé aussi à la structure de la société, associé aux enfants, etc. C'est Dieu qui vient bénir le couple. Mais le mariage chrétien, c'est bien plus que ça. C'est un sacrement. Ça veut dire quoi, sacrement ? Ça veut dire que les époux deviennent un signe visible d'une grâce invisible. C'est ça, sacrement. Ils portent en eux-mêmes, dans la fragilité de leur amour, dans la jeunesse de leur humanité, ils portent en eux-mêmes quelque chose, quelqu'un de plus grand qu'eux-mêmes. C'est ça, un sacrement. Alors, le mariage est un sacrement parce qu'il dit l'amour de Dieu pour son peuple, et c'est pour cela que c'est un mariage de toujours pour toujours. Au fond, ce mariage-là vous donne, ce sacrement vous donne un engagement du Seigneur avec vous. C'est pour ça qu'au moment de difficulté, et vous traverserez les difficultés, vous le savez bien, cessons de croire à quelque chose de magique, à quelque chose où il n'y aurait pas de tempête. Quelle vie n'a pas sa tempête ? Mais au contraire, de découvrir au cœur de cette tempête une présence. Que vous n'êtes pas seul. Le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est la grosse différence. C'est au cœur des tempêtes, au nom du sacrement, au nom de l'engagement que tu as pris, Seigneur, avec nous, d'une certaine manière, on peut dire c'est un mariage à trois, au nom du sacrement, nous te supplions, Seigneur, de venir à notre secours, parce que nous n'arrivons plus à nous aimer. C'est important de le dire, que tout ne va pas de soi, et qu'il faut renoncer à une forme d'amour qui serait un amour sans tension, un amour spontané, un amour basé sur l'émotion, comme si au fond le mariage était le comble de l'émotion, et ensuite ça se cassait un peu la figure, on assure comme on peut, voilà, mais c'est pas du tout ça. J'aime bien cette phrase de Bismarck, la veille de se marier, qui dit à sa fiancée, « Je ne me marie pas parce que je vous aime », elle a dû faire un peu la tête, « mais pour vous aimer ». Mais c'est beaucoup plus rassurant. C'est pour vous aimer. Quelque part, c'est le point de base, les fondements aujourd'hui. Ce n'est pas le sommet. C'est vous construisez patiemment, avec la grâce de Dieu, avec le soutien de vos familles, avec la prière de ceux qui vous entourent, eh bien, vous soutenez, vous construisez patiemment un amour et que dans 10 ans, vous dites, nous nous aimons plus maintenant qu'au jour même de notre mariage. Parce que l'amour est dans la volonté et non pas dans le ressenti. Et c'est là où je trouve qu'il y a parfois dans notre société quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on met le curseur, mais pas au bon endroit. On pense que l'amour, au fond, c'est comme quelque chose d'estatique, comme si une émotion qui nous envahirait, comme si on serait débordé de façon affective. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et de fait, dans l'échange des consentements, ce qui est très intéressant, c'est que quand je vais vous poser la question, voulez-vous prendre pour épouse Anaïs, voulez-vous prendre pour époux Quentin ? Je ne vous pose pas la question, est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous le voulez ? Mais c'est beaucoup plus rassurant, parce qu'une émotion ne dépend pas de nous, mais la volonté dépend de nous. Et c'est pour ça que nous demandons la grâce au Saint-Esprit de nous aider. Pour que notre volonté, dans le désir de rendre l'autre heureux, et que ce désir soit réciproque, eh bien, dans cette volonté est la sécurité de votre amour, parce que dans cette volonté aussi l'Esprit Saint qui vous accompagne jour après jour. Alors oui, vous pouvez être sel de la terre et lumière du monde, non pas pour vous-même, encore une fois, malgré la solennité de cette célébration. N'oubliez pas la pauvreté de vos vies, la pauvreté de vos cœurs, vos psychologies blessées. Qui n'a pas une psychologie blessée ? Mais justement, Si le mariage, c'est l'union de deux pauvres, mais nous ne sommes pas réduits à nos propres blessures, l'affirmation d'une transcendance, eh bien, au contraire, nous tire vers le haut et nous encourage, nous donne de l'espérance. Nous ne sommes pas réduits à nos angoisses, à nos peurs, à nos préjugés, à nos raideurs, toutes choses qui nous habitent par ailleurs. Non, dans le mariage chrétien, le Seigneur vient épouser aussi vos humanités pour vous emmener plus haut. Il nous tire vers le haut. Et c'est très émouvant. Les sacrements, moi je trouve que c'est... Plus ça va, plus, comme prêtre, plus je célèbre les sacrements, plus c'est émouvant quelque part, parce que plus il y a une disproportion, vous voyez, une disproportion comme dans l'Eucharistie, il y a une disproportion entre ce peu de pain, ce peu de vin et le corps et le sang du Christ, il y a une disproportion entre cette goutte versée sur le front d'un enfant et la vie éternelle qu'il habite, il y a une disproportion aussi entre vos humanités et ce à quoi vous êtes appelés. Manifestez la grandeur de l'amour de Dieu dans l'humilité de votre cœur et de vos vies, dans la modestie. Alors je crois que c'est quelque chose de très beau, c'est justement quand dans cette dimension-là que vous découvrez que, non pas par vous-même, non pas par vos propres forces, mais qu'un autre agit en vous, que c'est par la grâce d'un autre que vous pouvez être sel et lumière, et non pas par votre propre humanité, votre propre génie. Au contraire, j'aime à penser que le mariage, c'est l'union de deux pauvres. De deux pauvres qui n'arrivent pas à s'aimer, mais qui supplient la grâce devant l'autel du Seigneur. Alors là, ça change complètement tout. Ce n'est pas simplement une dimension humaine, mais cet engagement du Seigneur avec vous, au quotidien, vous permettra de dépasser ce qui fait les difficultés classiques de la vie commune. Comme dans ma vie communautaire, eh bien oui, j'ai du mal à accueillir tel frère, j'ai du mal avec tel caractère, j'ai du mal... Mais le fait que nous prions ensemble, par exemple, si on ne priait pas ensemble, ben, ça fait longtemps qu'il y aurait du sang sur les murs dans la communauté, mais je vous le dis. Non, mais sans vous révéler, trahir de secrets de communauté, mais c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. Arrêtons de croire à une vie sans tension, à quelque chose où on est comblé. Oui, au cimetière, il n'y a pas de tension. Là, on est complètement détendu. Ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein? Mais dès qu'il y a une vie, il y a forcément une tension, parce qu'il y a deux volontés qui n'ont pas le même avis, avec une forme de voir les choses différentes, et donc une forme de voir l'éducation, une forme d'entreprendre différente. Et forcément, il y a des heures. Mais à la différence d'une vue simplement psychologique, le mariage chrétien donne une espérance. Ça, c'est énorme. Il donne une espérance. Nous ne sommes pas réduits à nos psychologies blessées. Nous sommes tirés vers le haut pour demander au Seigneur sa grâce et accueillir de sa main la bonté dont nous sommes parfois dépourvus et le pardon dont il veut nous faire le témoin. Oui, frères et sœurs, comme il est bon d'être ici en cet après-midi, comme ça nous fait du bien de vous voir, Anaïs et Quentin, dans la jeunesse de votre amour et de vos humanités, mais en même temps d'être un témoignage de l'amour de Dieu qui est de toujours pour toujours. Alors, on peut dire, mais n'est-ce pas folie ? C'est vrai que dans le domaine du travail comme dans le domaine de la vie affective, on troque vite le CDI pour le CDD. N'est-ce pas folie, mais est-ce que dans 30 ans, 40 ans, 10 ans, 2 ans, 1 mois, je t'aimerai? Et puis Quentin, il est bon que tu sois informé que nous avons une très bonne constitution physique. C'est-à-dire que, surtout pour les femmes, ma grand-mère est morte à plus de 90 ans, on a une très très bonne constitution physique, je veux dire. Donc, non, mais c'est important, je veux dire, de se dire, c'est vrai que ça peut effrayer, je veux dire, bon, du coup, ben, j'ai 26 ans, j'ai 28 ans, et jusqu'à 90 ans, je dis, oh là, ça va être quelque chose. Voire 100. La grand-mère de Cantama. Les femmes, toujours. Les femmes nous dépassent toujours, on le sait très bien. Et bon, oui. Mais justement, c'est là où est le piège. Parce qu'on, quelque part, on se projette avec les 50, les 30 ans, les 60 ans, 100 ans, tout ensemble. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est un jour, plus un jour, plus un jour. Et si qu'à chaque jour, vous dites « je le veux », eh bien, au bout de 60 ans, vous direz « je le veux ». J'aime bien cette parole de Mère Teresa qui répondait à un journaliste et qui disait, lui posait la question, mais au fond, ce que vous faites par rapport à la misère du monde, est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau? Et la réponse des saints est extraordinaire. L'océan n'est-il pas composé de gouttes d'eau? Notre vie n'est-elle pas composée de secondes, de minutes, de jours? Alors, c'est un engagement justement qui n'est pas soluble dans le quotidien. Indissoluble dans ce sens-là, que le quotidien ne dissout pas. Nous croyons, nous, un amour, que le quotidien ne dissout pas. C'est un peu fou, quelque part c'est un peu fou, ça c'est sûr, parce qu'on prend la mesure aussi de la réalité humaine. Mais en même temps, quelle confiance le Seigneur nous fait lorsqu'il affirme que l'amour humain, comme dit la parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques, les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Quelle confiance le Seigneur vous fait, Anaïs et Quentin, au seuil de votre engagement, pour croire en vous, croire en la capacité que vous avez de vous donner l'un à l'autre, croire que cette capacité, par sa grâce, aura une pérennité, aura un avenir. Alors oui, nous pouvons redire avec le psalmiste, la joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, nous pouvons redire que cette confiance qui fait le cœur de la vie chrétienne, qui fait le cœur du croyant, eh bien, cette confiance puisse-t-elle vous habiter pour que vous puissiez vous laisser enthousiasmer par un Dieu qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.